אני ישנה וליבי ער כל דודי דופק. Je dors, je suis quasiment assoupi, endormi, mais mon cœur est éveillé. La voix d'Odi de mon bien-aimé Dofek, elle frappe. Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati, Shiroshi Nimnatal, Kevusotai, Resiselaila. Hachem, Dodi, notre oncle, notre bien-aimé, par l'homme d'Israël. Il les appelle ma sœur, ma compagne, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Alors même qu'elle a fauté, elle a fauté. La voix d'Hachem frappe à sa porte, à la porte de notre cœur, et lui dit « Ouvre-moi ». C'est par la voix, par le col, qu'Hakadosh Baruch Hu a créé le monde, qu'il nous a créé. C'est une manière de lui dire « Je t'ai créé, toute ton existence dépend de moi. Je te supplie de m'ouvrir ton cœur. Et tu ne l'ouvres pas? Ouvre ton cœur, je ferai le reste. » Et les Juifs répondent, c'est toi qui nous as rejetés, qui nous a fait sortir d'Israël, qui a détruit ta résidence, qui nous a envoyés en galoute. Nous, on se sent seuls. À quoi ressemble ce chant de Shir HaShirim, dit par Shlomo, à l'histoire d'un oncle qui aurait épousé sa nièce? Mais les rapports entre hommes et femmes sont des rapports parfois difficiles, a fortiori quand ils sont familiaux. Elle lui aurait manqué de respect, il l'a renvoyée chez sa mère, mais ensuite il l'a regrettée et il est revenu pour la chercher. Elle lui répond, mais c'est toi qui m'as renvoyée. Et là, son mari, son oncle lui demande, ouvre-moi ma colombe, car depuis que je t'ai renvoyée, je ne suis plus rentré chez moi. Ouvre-moi, donc puisque je ne suis plus rentré chez moi, car, et je traduis maintenant, ma tête est pleine de rosée. Je suis en dehors de ma maison, chez Roshi Nimlatal, ma tête est pleine de rosée, dehors, et mes cheveux ruissellent des humidités de la nuit. La nuit, c'est la galoute. La rosée, ce n'est pas la pluie. La pluie descend en fonction de nos mérites. La rosée descend que l'on ait ou non de mérite. Et l'oncle lui dit, tu me dis, Hachem, tu me manques. Tu es en galoute, et tu sais, puisque je t'ai envoyé en galoute, je ne rentrerai pas chez moi tant que je ne t'aurai pas ramené avec moi. Regarde, mes cheveux ruissellent de ta tente dehors, ils ruissellent de tal, de rosée. Et sache que puisque la rosée ne dépend pas des mérites, alors bien que tu n'aies pas de mérite, je veux que tu reviennes. Dieu nous supplie de rentrer à la maison, de revenir chez lui, malgré nos fautes. Il nous les pardonne, comme il dit que sa tête est pleine de rosée, puisque la rosée vient, qu'il y ait ou non des mérites, ce n'est pas comme la pluie. Akash Boukou veut que malgré nos manques de mérites, alors à ce moment-là, il veut nous rappeler chez lui. Malgré ses suppliques, la volonté que nous fassions tchouva, pour quelle raison nous ne revenons pas vers Hachem? L'intérêt est gigantesque. On dit que celui qui fait teshuvah, les fautes qu'il a commises par mégarde deviennent des mérites, et les fautes qu'il a commises en faisant exprès deviennent elles-mêmes des fautes involontaires. Donc nos fautes s'effacent par la teshuvah. Pour quelle raison on ne revient pas? On ne revient pas bien vers lui, car le pasuk dit Ubechorev iktsavtem et Hashem. C'est ça qui est écrit. Vaïta anaf Hashem leashmid etrem. Et donc, vous vous êtes rebellé contre Hashem et Hashem a voulu vous anéantir. Et on pourrait penser que c'est à cause de la vodazara qu'ils ont faite. Alors que Moshe était au Sinaï, qui se sont adonnés au culte du Vaudor, eh bien non, c'est pas à cause de ça. Il voulait nous anéantir parce qu'on avait la nuque raide. On a la nuque raide. Rashi a dit, ils opposent une nuque raide face à qui les guide. Ceux qui veulent les guider, ils refusent de les écouter. Leur nuque est un nœud de fer. Et donc, il n'y a pas d'espoir qu'ils reviennent. Beteshuva. Ils n'ont pas été menacés d'extermination à cause du veau d'or, mais parce qu'ils étaient incapables d'être guidés, de se laisser guider. Et pourtant, ils ont un destin à accomplir, un long chemin à faire pour être comparables à des anges et finir par vivre avec Hachem. On voit ici que ce qui manque aux Juifs pour faire tshuva, c'est cette nukred, le refus d'écouter la voix de la raison quand elle s'oppose à notre compréhension immédiate ou à nos intérêts, malgré la qualité du guide. Une autre manière de parler, c'est qu'on ne croit pas que le pardon d'Hachem amènera l'effacement de la faute. On ne voit pas comment ça fonctionne. Et donc, on ne peut pas mobiliser toute notre énergie pour faire teshuva. On oppose une nuque de fer. Quelle est la solution? Premièrement, comme c'est écrit dans Parashat Nitzavim, Kikarov elecha davar me'od, et on parle de la tshuva, elle est proche de toi. L'oniflet mi mecha, elle ne t'est pas du tout étrangère. Il faut juste que tu amorces le phénomène, que tu commences à aller vers faire tshuva, et à ce moment-là, Hachem utilise, arme ton bras, lui donne de la force, mobilise des kohot que tu n'as pas pour pouvoir te faire avancer, arriver à se rapprocher de lui. La Gemara Yerushalmi, Makot, Perek Bet, Alachat Edvav, qu'on a posé la question à la Chochma, à l'intelligence, à la Nevoa, à la prophétie, et à Hachem, on a demandé, mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un faute? Une des réponses, c'est de dire que celui qui faute n'a plus de place. Il n'a plus de sol où poser les pieds, car le monde est donné, pas pour ceux qui sont des fauteurs, le monde est donné pour ceux qui font qui correspondent à ce que Akash Boukho a voulu pour son monde. Et donc, ils n'ont plus de sol sous les pieds. La tshuva est déjà dans ton cœur. Elle est déjà dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche pour faire vidouille et avouer tes fautes, te les avouer en quelque sorte. Et dans ton cœur, sachez que le cœur et la bouche, finalement, sont des instruments qui peuvent atteindre jusqu'au trône divin. Ils ne participent pas réellement de la matérialité. Et donc, ils ont des pouvoirs malheureusement, on ignore. La Chochma a dit pour le fauteur, il doit errer, il n'a plus de sol sous les pieds. La Nevoa a dit la mort. Ça, on comprend. Mais que ce soit effacé, parce qu'Akadosh Baruch Hu le décide, qu'il n'y ait plus l'événement qui correspond à notre faute, ça, c'est très difficile à comprendre. Pourtant, Hachem lui-même a dit à Moshe Rabbeinu que quand Tamus Srut Avot, il n'y a plus de Srut, il n'y a plus de mérite, et que rien ne peut nous sauver, il lui a indiqué comment se comporter. Il lui a dit de dire les 13 attributs, 13 qualités d'Hachem, et de l'appeler Hachem, Hachem, Kel Rahum Vechanun, Erechapaim, Verafresed, Vehemet, Noser Chesel Afin, Noser Avon Vapesha, Vehata Venake. Et lui a dit, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu que personne ne reviendrait sans qu'il ait obtenu au moins en partie des résultats. Ça marche. Prenons l'exemple de Erechapaim, que Hachem doit être patient. A dit de lui qu'il était patient. Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, ça a été rapporté dans Gmar Sanhedrin, Kouf Yud Alef, Amoud Alef, et il lui a dit, mais pourquoi patient avec les tzadikim? Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit non, avec les Rechaim. Et Moshe a dit, non, que les Rechaim périssent. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, sur ta vie, tu verras que c'est toi qui en auras besoin de cette patience. Pour les Bnei Israël, au moment du Vaudor, c'est Moshe lui-même qui a dit, mais sois patient avec eux, pour qu'ils aient le temps de faire teshuva. Les Rechaim, en vérité, amènent l'obscurité dans le monde. C'est écrit, Vayerev Elou Maasim Shel Rechaim, Vayerev Vayiboker, dans ce pasouk-là. Et Erev, la nuit, c'est l'obscurité dans le monde, vient du fait des agissements des gens qui sont méchants. Vayiboker vient le matin, ce sont les Tzadikim qui, par leurs actes, amènent la lumière. C'est écrit ensuite Yom Echad, jour 1. Pas jour premier. Et jour 1, ceci veut dire qu'en vérité, il n'y a qu'Hachem sur terre. Donc il n'y a pas de fauteur et surtout il n'y a pas de tribunal. Il n'y a que du Chesed. C'est Yom Kippour. C'est ça le jour où Hachem est en quelque sorte seul avec son monde et qu'il a quand même décidé de le créer. C'est un jour de chesed, plein de chesed, sans aucun dîne, sans aucun jugement. Mais le Midrash poursuit en disant, finalement, les actes de qui, et ni yodéa, et Izemehem Chafetz. Je ne sais pas les actes de qui je préfère. Quand il a vu que la lumière était bonne, Vayar et Hashem et Taor Kitov, quand il a vu que la lumière était bonne, alors il a préféré les Maasim et Sadekim. Mais la question reste, qu'est-ce que ça veut dire qu'il aurait pu, aimer les actes des Rechaim? Le dévoilement, effectivement, d'Hachem aurait pu se faire par la chute des Rechaim. Tout ce qui est mauvais, les mauvaises branches, on les verrait tomber. Et à ce moment-là, cette vision des choses permettrait de voir combien HaKadosh Baruch Hu dirige son monde et qu'il apparaît, qu'il se dévoile. Mais la punition des Rechaim détruit aussi le monde. Elle n'a pas qu'un aspect positif. Que les Égyptiens meurent, finalement, ça montre la royauté, la toute puissance divine. Mais que les Bnei Israël, Tzadikim, fils de Tzadikim, quand ils font une faute, amènent un obscurcissement de la vérité, là, on a besoin de la patience divine. Et donc, HaKadosh Baruch Hu doit faire intervenir une notion de pardon pour apparaître sous un dévoilement différent. Laisser même les Tzadikim qui ont fauté, leur laisser le temps de revenir faire teshuva et de ramener plutôt son monde vers le Mashiach en donnant le temps aux tzadikim de se parfaire, tout en naturellement détruisant les rechaim. En voyant Or Kitov, que la lumière était belle, on comprend qu'Akash Boukhoa préférait construire son monde en donnant du temps aux tzadikim pour être tzadik, aux tzadikim, fils de tzadikim pour être tzadik, plutôt qu'en préférant la destruction des Rechaim pour manifester sa toute puissance. Et le pardon d'Hachem, ce n'est pas comme le pardon des hommes. Le pardon d'Hachem efface la situation délictueuse. Dans une discussion entre Rabbi Akiva et avec le Racha Tournus Rufus, Tournus Rufus demandait à Rabbi Akiva, hein, si votre Dieu aimait les pauvres, alors pourquoi il ne les a pas nourris ? Lui-même, qui n'ait pas besoin des êtres créatures. Et Rabbi Akiva a répondu, au contraire, oui, c'est pour nous sauver du Gehinam. La conversation entre eux se poursuit, mais je voudrais m'arrêter ici. Les Bnei Israël sont appelés fils, même quand ils ont fauté. Et donc, les pauvres en question, étant les fils du roi vivant, quand ils ont fauté, le roi est obligé de les punir. Mais il regarde d'un bon œil le fait qu'on vienne finalement presque contrevenir à ses décrets et que l'on nourrisse ses fils que lui a condamnés. Et par là même, en luttant contre les décrets néfastes d'Hachem, difficiles à accepter d'Hachem, quand on nourrit ses fils, même ceux qui ne méritent pas, alors à ce moment-là, eux, qui sont toujours ses fils, il les regarde finalement d'un œil miséricordieux. Il ne va pas punir ceux qui les nourrissent, contrairement à ce que pense Tournus Rufus, mais aussi ceux qui les nourrissent voient leurs fautes pardonnées. Aussi bien nos tzadikim que nos rechaim, d'une certaine manière, contribuent tous les deux, par leurs actes, contribuent à construire le monde d'Hachem. Et ce faisant, ils n'agissent pas avec une logique intangibles, ils agissent comme les membres d'une même famille. Et ce sont les Bnei Elohim, ce sont des fils d'Hachem eux-mêmes. Et puisque ce sont des fils d'Hachem et qu'ils agissent de manière avec un chesed et incroyable, alors HaKadosh Baruch Hu leur accorde un régime de faveur. Le mot est lancé. Nous, les Bnei Israël, sont les fils d'Hachem. Et donc nous attendons tous des faveurs de sa part au-delà de toute logique. On faute. Et il lui faut, en quelque sorte, nous pardonner, comme on pardonne à ses enfants. Je reviens au texte du début, quand HaKadosh Baruch Hu vient et dit à celle-même qui s'est mal comportée à son égard, qui lui dit, écoute, reviens. Et quand elle refuse, il dit, tu sais quoi, je viens avec toi en galoute, je t'attends, et on retournera ensemble. Et nous sommes une famille. Quand on dit, Kutcha Baruch Hu, Oraita, Umne et Israël, Chadou, on est le peuple d'Hachem, on est lié à Hachem par sa Torah. Devant la nucrède, l'incrédulité des Bnei Israël, qui freine tout effort sérieux pour revenir vers Hachem, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a brisé les louchot. Il a lâché les louchot. Elles se sont cassées. Qui étaient écrites par le doigt d'Hachem. Et le support aussi était céleste. Il les a jetées à terre. On les a attendues pendant 2000 ans. Et il les a brisées. La consternation devant cette incroyable perte a cassé l'armure et l'assurance des Israël. Et ils ont fait tchouva. L'émotion a brisé le mur de fer qui nous sépare de notre Créateur. Mais il nous a redonné la Torah. Car la Torah est le kartov natati lachem, torati al ta'azuvu. Je me donne en même temps que ma Torah. Je suis dans la Torah. Quand j'étudie la Torah, quand un homme étudie la Torah, alors à ce moment-là, chaque mot, chaque lettre est une mitzvah. Et c'est par là qu'il prend connaissance d'une proximité, qu'il prend connaissance de ce que veut le Créateur. Et qu'il se rapproche de lui. Dans les sciences humaines ou non humaines, enfin plus les sciences exactes, on apprend des nouveautés par raisonnement, on suit un protocole, on obtient un résultat. Mais pour la Torah, ce sont les mots qui sont vivants. Chaque mot apporte une étincelle de vie qui nous pénètre, qui ouvre notre cœur, qui efface les voilements qui nous séparent d'Hachem, qui nous ouvre à la lumière, et goutte à goutte, l'ondée révèle à cette terre grossière que nous sommes tout ce qu'elle cachait. La présence divine devient pour nous patente, et à ce moment-là, la tchouva devient facile. Shana tova mvorechet.